Les jours passèrent et 1421 arriva. En mars, Frodo fut de nouveau malade, mais il le cacha à grand-peine, car Sam avait d'autres préoccupations. Le premier enfant de Sam et Rosie naquit le 25 mars, date que Sam ne manqua pas de remarquer.
« Pour tout vous dire, monsieur Frodo, » dit-il, « je suis un peu embêté. Rose et moi, on s'était entendus pour l'appeler Frodo, avec votre permission. Sauf que c'est pas lui, c'est elle. Mais c'est la plus jolie petite fille qu'on puisse souhaiter, vu qu'elle ressemble à Rose plus qu'à moi, heureusement. Alors on ne sait trop que faire. »
« Eh bien, Sam, » dit Frodo, « en aurais-tu contre les vieilles coutumes ? Choisis un nom de fleur comme Rose. La moitié des filles du comté ont reçu un nom de ce genre. Et que pourrait-on demander de mieux ?»«
Je suppose que vous avez raison, monsieur Frodo, » dit Sam. « J'ai entendu de jolis noms durant mes voyages, mais j'imagine qu'ils sont un peu ronflants pour l'usage de tous les jours, si vous me comprenez. L'ancêtre, il me dit, « Fais ça court, comme ça, t'auras pas à le raccourcir avant de pouvoir t'en servir. » Mais si c'est pour être un nom de fleur, je me fiche qu'il soit court ou long. Il faut que ce soit une belle fleur, parce que, voyez, je la trouve très belle, et je pense qu'elle le deviendra encore plus. »
Frodo réfléchit un moment. « Eh bien, Sam, que dirais-tu d'Elanor, l'étoile soleil? Tu te souviens, la petite fleur dorée dans l'herbe de la Lothlorienne ?»«
Vous avez encore raison, monsieur Frodo !» s'écria Sam ravi. « C'est exactement ça !»
La petite Elanor avait près de 6 mois, et l'an 1421 était dans son automne quand Frodo fit venir Sam dans le bureau. « Jeudi, ce sera l'anniversaire de Bilbo, Sam, » dit-il. « Alors, il surpassera le vieux Touk. Il aura 131 ans. »«
C'est bien vrai, » dit Sam. « Il est incroyable. »«
Alors, Sam, » dit Frodo, « j'aimerais que tu ailles trouver Rose pour voir si elle peut se passer de toi, afin que nous partions ensemble. Tu ne peux pas partir bien loin, ni trop longtemps maintenant, je le sais bien, » dit-il avec quelque mélancolie dans la voix.
« Non, pas tellement, monsieur Frodo. »«
Bien sûr que non, mais qu'importe. Tu peux faire un bout de chemin avec moi. Dis à Rose que tu ne seras pas très longtemps parti, pas plus d'une quinzaine, et que tu rentreras sain et sauf. »«
J'aimerais pouvoir aller avec vous jusqu'à Fondeval, monsieur Frodo, et voir monsieur Bilbo, » dit Sam. « Mais en même temps, le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est ici. Je suis déchiré à ce point-là. »
« Pauvre Sam, j'ai bien peur que tu doives en pâtir, » dit Frodo. « Mais tu en guériras. Tu es fait pour être solide et entier, et tu le seras. »
Au cours des 2 jours suivants, Frodo passa en revue tous ses écrits et documents en compagnie de Sam, et lui remit ses clés. Il y avait là un grand livre à simple reliure de cuir rouge. Ses hautes pages étaient presque remplies à présent. Les premières étaient couvertes de l'écriture de Bilbo, frêle et serpentine. Mais la plus grande part était de la plume toujours coulante et assurée de Frodo. Tout était divisé en chapitres, mais le 80e était inachevé et suivi de quelques pages blanches. La page de titre suggérait différentes formules biffées l'une après l'autre comme suit. « Mon journal. Mon voyage inattendu. Un aller et retour. Et ce qui arriva après. Aventure de 5 hobbits. Le conte du Grand Anneau, compilé par Bilbo Bessac à partir de ses propres observations et des relations de ses amis. Ce que nous avons fait dans la guerre de l'Anneau. » La main de Bilbo s'arrêtait là, et Frodo avait écrit « La chute du Seigneur des Anneaux et le retour du roi, tel que vu par les petites gens. » Ou « Mémoire de Bilbo et Frodo du Comté, complété par les relations de leurs amis et l'érudition des sages. » Avec des extraits des livres de tradition traduits par Bilbo à Fondeval.
« Ma foi, vous avez presque fini, monsieur Frodo !»
s'exclama Sam.
« Mais vous n'avez pas chômé, il faut dire. »
« J'ai bel et bien fini, Sam, » dit Frodo. « Les dernières pages t'appartiennent. »
Le 21 septembre, ils partirent ensemble. Frodo sur le poney qu'il avait emmené depuis Minas Tirith et qu'il appelait désormais l'Arpenteur, et Sam sur son cher Bill. C'était un beau matin doré, et Sam ne demanda pas où ils allaient. Il croyait pouvoir deviner. Ils prirent la route des Stocks à travers les collines et se dirigèrent vers la pointe au bois, laissant leur poney marcher à leur gré. Ils campèrent sur les côtes vertes, et le 22 septembre, ils descendirent lentement vers l'orée des bois, alors que l'après-midi touchait à sa fin.
« Eh bien, si c'est pas derrière cet arbre-là que vous vous êtes caché quand le cavalier noir est apparu la première fois, monsieur Frodo !»
dit Sam en montrant l'endroit sur sa gauche.
« On dirait un rêve maintenant !»
Le soir était tombé, et les étoiles scintillaient dans le ciel de l'est lorsqu'ils passèrent le chêne décrépit et descendirent la colline entre les fourrés de noisetiers. Sam était silencieux, plongé dans ses souvenirs. Bientôt, il s'aperçut que Frodo chantait doucement pour lui-même. C'était la vieille chanson de marche, mais les mots n'étaient plus tout à fait les mêmes.
Pourrait encore surgir au détour du sentier une nouvelle route, une porte cachée. Et si je dus passer chaque fois mon chemin, bientôt viendra le jour où je prendrai enfin ces sentiers dérobés qui promettent merveilles, qui à l'ouest de la lune, qui à l'est du soleil.
Et comme en réponse, venus d'en bas sur la route qui montait hors de la vallée, leur parvinrent des voix qui chantaient.
Ah, Elbereth Gilthoniel, Silivren Pena Miriel, O Menel Aglar Elnath, Gilthoniel ha Elbereth.
Il demeure en nous, éternel, même en ces contrées éloignées, le souvenir de ta lumière, clarté étoilée sur les mers.
Frodo et Sam s'arrêtèrent et s'assirent en silence parmi les ombres douces, jusqu'au moment où une vague lueur les avertit que les voyageurs approchaient. Gildor était là, et beaucoup d'autres belles gens du peuple elfique. Et Sam s'étonna de voir Elrond et Galadriel chevauchant parmi eux. Elrond portait un manteau de gris, et il avait une étoile au front et une harpe d'argent à la main. Et à son doigt était un anneau d'or serti d'une grande pierre bleue, Vilia, le plus puissant des trois. Mais Galadriel était montée sur un palefroid blanc, et elle miroitait dans sa robe blanche comme des nuages devant la lune, car une douce lumière semblait émaner de sa personne. À son doigt brillait Nenya, l'anneau fait de mithril, orné d'une unique pierre blanche qui scintillait comme une étoile de givre. Cheminant derrière eux sur un petit poney gris et paraissant dodeliné de la tête dans son sommeil, venait Bilbo lui-même. Elrond les accueillit avec gravité et courtoisie et Galadriel leur sourit.
« Eh bien, maître Sam Saget, dit-elle, vous avez fait bon usage de mon cadeau à ce que j'entends et à ce que je vois. Le comté sera maintenant et plus que jamais béni et bien-aimé. »
Sam s'inclina, mais ne trouva rien à dire. Il avait oublié combien la dame était belle. Alors Bilbo s'éveilla et ouvrit les yeux.
« Salut, Frodo, » dit-il. « Tu sais quoi? J'ai dépassé le vieux Touc aujourd'hui. C'est au moins ça de réglé. Maintenant, je me sens tout à fait prêt pour un autre voyage. Tu viens avec moi ?»«
Oui, bien sûr, » dit Frodo. « Les porteurs de l'anneau devraient partir ensemble. »«
Où allez-vous, maître ?»
s'écria Sam. Mais il comprit enfin ce qui se passait.
« Au Havre, Sam, » répondit Frodo.
« Je peux pas venir. »«
Non, Sam, pas pour l'instant en tout cas. Pas plus loin que les Havres. Même si tu as été aussi un porteur de l'anneau, quoique pour un court moment. Ton heure viendra peut-être. Ne t'afflige pas trop, Sam. Tu ne peux être toujours déchiré en deux. Il te faudra être un et entier pendant de nombreuses années. Tu as tant de choses à goûter et à être, et tant à faire. »
« Mais, »
fit Sam, et les larmes lui montèrent aux yeux.
« Je croyais que vous alliez goûter les joies du comté, vous aussi, pendant des années encore, après tout ce que vous avez fait. »
« Je l'ai cru aussi, il fut un temps, mais ma blessure est trop profonde, Sam. J'ai voulu sauver le comté, et il l'a été, mais pas pour moi. Il en va souvent ainsi, Sam, quand les choses sont en péril. Quelqu'un doit y renoncer, les perdre, afin que d'autres puissent en jouir. Mais tu es mon héritier. Tout ce que j'avais et que j'aurais pu avoir, je te le laisse. Et tu as Rose aussi, et Elanor, et le petit Frodo viendra, et la petite Rosie, et Merry, et Boucle d'Or, et Pipin, et peut-être d'autres que je ne puis voir. Tes mains et ton jugement seront sollicités de partout. Tu seras mère, bien entendu, aussi longtemps que tu le désireras, et le plus célèbre jardinier de toute l'histoire. Et tu liras des passages du Livre rouge, et tu entretiendras le souvenir de l'âge qui n'est plus, de sorte que les gens se rappelleront le grand péril et chériront d'autant plus le pays qu'ils aiment tant. Et ce faisant, tu seras aussi occupé et aussi heureux qu'on peut l'être, tant que continuera ta partie de l'histoire. Allons, viens avec moi.
Alors Elrond et Galadriel poursuivirent leur chevauchée. Car le troisième âge s'était achevé, les jours des anneaux étaient révolus, et c'en était fait de l'histoire et du chant de ces années. À leur côté venaient de nombreux elfes du haut peuple, qui ne voulaient plus rester en terre du milieu. Et parmi eux, remplis d'une tristesse pourtant bien heureuse et sans amertume, se trouvaient Sam et Frodo et Bilbo, et tous les elfes ravis de leur faire honneur. Et s'ils voyagèrent à travers le comté, toute la soirée et toute la nuit durant, nul ne les vit passer, hormis les bêtes sauvages. Où çà et là, un vagabond apercevant parmi les ombres une rapide lueur sous les arbres, ou un clair-obscur filant dans l'herbe, tandis que la lune descendait à l'ouest. Et quand ils eurent quitté le comté, suivant la lisière sud des coteaux blancs, ils arrivèrent au coteau du lointain, puis au tour, et ils contemplèrent au loin la mer. Et ils descendirent enfin jusqu'au Mithland, au Havre gris, sur le long estuaire du Loun. À leur arrivée aux portes, Círdan, le constructeur de navires, vint les accueillir. Grand il était, et sa barbe était longue. Et lui-même était gris et vieux, hormis ses yeux perçants comme des étoiles. Et il les regarda et s'inclina, puis il dit « Tout est maintenant prêt ». Círdan les conduisit alors au Havre, où un navire blanc était au mouillage. Sur le quai, à côté d'un grand cheval gris, se tenait une forme tout de blanc vêtue qui les attendait. Elle se retourna et, comme elle venait à leur rencontre, Frodo vit que Gandalf portait désormais ouvertement le troisième anneau, Narya le Grand, dont la pierre rutilait comme du feu sur sa main. Alors, ceux qui devaient partir furent heureux, car ils surent que Gandalf prendrait la mer avec eux. Mais Sam avait le cœur en peine, songeant que, si la séparation serait amère, le long chemin de retour serait plus pénible encore. Or, tandis qu'il se tenait là, que les elfes montaient à bord et que l'on s'apprêtait au départ, Merry et Pipin arrivèrent en toute hâte sur leur monture, et Pipin riait au milieu de ses larmes.
« Tu as déjà essayé de nous fausser compagnie, Frodo, et ça n'a pas marché, » dit-il. « Cette fois, tu as presque réussi, mais pas tout à fait. Ce n'est pas Sam qui t'a vendu cette fois, mais Gandalf en personne. »«
Oui, » dit Gandalf, « car il serait mieux de rentrer à trois plutôt que seul. » « Eh bien, ici, chers amis, sur les rivages de la mer, s'achève enfin notre fraternité en terre du milieu. Allez en paix. Je ne dirai pas « ne pleurez point », car toutes les larmes ne sont pas un mal. »
Frodo embrassa alors Merry et Pipin, et en tout dernier lieu, Sam, puis il s'embarqua. Et les voiles furent hissées. Et le vent se leva, et le navire glissa lentement sur le long estuaire gris. Et la lumière de la fiole de Galadriel que portait Frodo clignota et disparut. Et le navire gagna la haute mer et passa doucement dans l'ouest, jusqu'à ce qu'enfin, par une nuit pluvieuse, Frodo perçut dans l'air une douce fragrance et le son de chant porté sur l'eau. Puis il lui sembla, comme dans le rêve qu'il avait eu dans la maison de Bombadil, que le rideau de pluie grise se faisait tout de vert argenté, et il contempla des rivages blancs, et au-delà, une contrée verdoyante et lointaine, sous un rapide lever de soleil. Mais pour Sam, resté debout au Havre, le soir laissa place aux ténèbres, et contemplant la mer grise, il vit seulement une ombre flottant sur les eaux, bientôt perdue dans l'ouest. Il y resta jusque tard dans la nuit, n'écoutant que le soupir et le murmure des vagues sur les rivages de la terre du milieu, et ce son lui descendit aux profondeurs de l'âme. À ses côtés se tenaient Merry et Pipin, en silence. Les trois compagnons se détournèrent enfin, Puis, sans jamais plus regarder en arrière, ils chevauchèrent lentement vers la maison. Et ils ne prononcèrent aucune parole avant d'avoir regagné le comté. Mais chacun trouva grand réconfort auprès de ses amis sur le long chemin gris. Enfin, ils traversèrent les coteaux et prirent la route de l'Est. Puis, Merry et Pipin continuèrent vers le pays de Bouc. Et tous deux chantaient déjà chemin faisant. Mais Sam se tourna vers Bello et bientôt remonta la colline tandis que le jour baissait encore. Et arrivant, il vit une lueur jaune et du feu à l'intérieur, car le repas du soir était prêt et on l'attendait. Et Rose l'accueillit et l'installa dans son fauteuil et elle mit la petite Eleanor sur ses genoux. Il respira profondément.
« Eh bien, je suis de retour, » dit-il.